France Culture.
Le journal, Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Y a-t-il des ultra-riches qui ne paient pas d'impôts, comme l'a affirmé l'ancien ministre de l'économie Éric Lombard? Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, est allé le vérifier cet après-midi dans les documents du ministère à Bercy. On y rejoint dans quelques instants Valentin Grille. 40 ans après la disparition d'une jeune femme en Isère, il n'y aura pas de nouveau procès, même si son meurtrier présumé avait fini par avouer. La Cour de cassation a décidé de maintenir cet après-midi la prescription, explication de Florence Sturm. En Iran, le pouvoir semble avoir muselé la révolte au prix d'un véritable bain de sang. Plusieurs milliers de victimes, 20 000 personnes sous les verrous. Nous retrouverons notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud à la frontière entre la Turquie et l'Iran. Julio Iglesias, la star de la variété des années 80, visé par deux plaintes pour agression sexuelle en Espagne. Une affaire qui déchaîne et divise la classe politique. Et puis le dossier de ce journal sera consacré à la rénovation du centre Pompidou à Paris, un lifting de 5 ans qui vient tout juste de démarrer. Comment contrer la censure? C'est la question du week-end pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'il se la pose, mais il y aurait cette fois péril en la demeure, avec l'objectif de régler l'affaire du budget une bonne fois pour toutes. Ce sera donc via le 49-3 ou les ordonnances, décision prise hier soir et justifiée par l'impossibilité d'aboutir à un vote. Encore faut-il ne pas braquer les socialistes et les inciter à ne pas voter la censure quand l'une de ces deux armes sera utilisée. Tout cela sera discuté activement durant le week-end, mais le Premier ministre doit présenter dans une demi-heure, dans une allocution enregistrée sur le perron de Matignon, des éléments de compromis. Nous y reviendrons dans le journal de 19h. Une première mesure que réclamaient les socialistes a d'ores et déjà été annoncée cet après-midi, la généralisation des repas universitaires à 1 euro. De son côté, Éric Coquerel a fait une descente à Bercy cet après-midi. Le président LFI de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale est allé tenter de tirer les choses au clair concernant la fiscalité des ultra-riches. Décision motivée par les récentes déclarations de l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard, qui avait affirmé que des milliers de contribuables parmi les plus fortunés ne payaient aucun impôt sur le revenu en France. Pour le vérifier, Éric Coquerel a donc épluché des documents de l'administration. On retrouve sur place au ministère de l'économie et des finances Valentin Grille. Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Est-ce que le président de la commission des finances a pu en savoir plus sur ce brûlant dossier?
Oui, et il rejoint incontestablement les conclusions de l'ancien locataire de Bercy.
Il y a plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs dizaines de milliers, mais de manière certaine plusieurs milliers de personnes, qui non pas ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais qui ont des revenus fiscaux très inférieurs, très 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 inférieurs par rapport à leurs revenus économiques estimés. Quand je dis très inférieurs, c'est très certainement en dessous de 5%.
Il s'appuie sur deux études consultées auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, études qui n'ont pas été rendues publiques, mais qui montrent que les plus riches, au-delà de 250 000 euros par an, ont des taux d'imposition très dégradés. Or, on savait déjà, grâce à une étude menée par l'Institut des Politiques Publiques en 2023, que les 150 plus grands patrimoines de France payaient moins de 2% d'impôts sur le revenu, avec à la clé un manque à gagner de 18 milliards d'euros pour le fisc. Éric Coquerel n'a pas pu obtenir de nouveaux chiffrages, mais il estime qu'avec ces nouvelles données, on peut envisager des pertes encore plus grandes pour l'État.
On peut estimer que pour quelques milliers, on est dans beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que là, c'est plusieurs dizaines de milliards qui manquent à l'État. Mais ce qui est un peu ce que nous dénonçons depuis longtemps, sauf que ça se confirme.
Il déplore la disparition de l'impôt sur la fortune. Sans lui, Bercy subit une méconnaissance complète du patrimoine financier des ménages les plus riches. Il appelle aussi à un retour de la taxe Zucman. Le gouvernement avait lui pour projet de s'en prendre aux holdings, ces sociétés souvent destinées à payer moins d'impôts. Mais les débats budgétaires suspendus, la mesure est pour l'instant abandonnée.
Valentin Grille en direct du ministère de l'économie et des finances avec les moyens techniques de Frédéric Quérou. Pour en revenir au budget, à noter que les députés socialistes ont voté cet après-midi en réunion réunion de groupe leur opposition au recours aux ordonnances sur ce budget 2026. Une petite pause judiciaire pour aller booster son poulain marseillais. Marine Le Pen, la patronne des députés RN, a profité d'une suspension de l'audience en appel du procès des assistants parlementaires européens pour mettre le cap sur la cité phocéenne où son candidat Franck Alizio est en meeting ce soir. Selon les derniers sondages, le candidat d'extrême droite est au coude à coude avec Benoît Payan, le maire sortant de gauche du printemps marseillais, même si, Nicolas Ballut, cela ne reste qu'un sondage.
Les sondages ne font pas l'élection, mais le Rassemblement national ne s'attendait peut-être pas à ceux qui donnent Franck Alizio au coude à coude avec le maire sortant Benoît Payan, devançant aisément Martine Vassal, la candidate de la droite et du centre, et le candidat LFI Sébastien Delogu. En cas de quadrangulaire, Franck Alizio pourrait même l'emporter. La polarisation du débat, la question de la sécurité et celle du narcotrafic expliquent cette montée du candidat qui demandait il y a 2 mois l'état d'urgence pour sa ville. Mais il existe aussi une autre raison, selon l'historien Jean Garrigue.
La question crucial du pouvoir d'achat. Parce que Marseille est une ville où la sociologie donne aux catégories populaires une place plus importante, par exemple, qu'à Paris.
Politiquement, Franck Alizio bénéficie du soutien du sénateur Stéphane Ravier, anciennement Reconquête, et les ambiguïtés de la campagne de Martine Vassal servent sa campagne. Pour Jean Garrigue, c'est aussi avec un discours un peu plus policé que le candidat d'extrême droite qui vient de l'UMP rassure une certaine frange de l'électorat.
Il y a un discours qui s'est peut-être rapproché de ce qu'attendent les électeurs municipaux, de ce qu'on attend d'une élection municipale en réalité. On est moins dans une forme de protestation radicale que dans une volonté gestionnaire qui est corollaire d'ailleurs de la montée en puissance du Rassemblement national.
Et pour enfoncer un coin supplémentaire à droite, Franck Alizio a demandé à Martine Vassal de se retirer.
Et le maire sortant de Marseille, Benoît Payan, candidat à sa réélection, a réagi cet après-midi à cette descente de Marine Le Pen dans sa ville. Le RN, dit-il, représente l'anti-Marseille. L'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie en discussion depuis 1 heure à l'Élysée. Emmanuel Macron a réuni toutes les forces politiques de l'archipel, toutes sauf une, le FLNKS, qui a décidé de boycotter la réunion, même si le mouvement indépendantiste a émis la possibilité d'intervenir en visioconférence. L'Élysée se dit malgré tout optimiste sur la possibilité d'aboutir à un accord sans passage en force, a indiqué Emmanuel Macron. C'était une décision très attendue en matière de prescription pour les affaires de cold case. La Cour de cassation a rendu tout à l'heure son arrêt et il est définitif dans l'affaire du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, cette jeune femme disparue le 22 mars 1986 en Isère. Son meurtrier présumé, d'abord interpellé puis mis hors de cause, avouera finalement 36 ans plus tard, en 2022, l'avoir tué. Pouvait-on dès lors le juger ? À 2 reprises, des cours d'appel avaient estimé que oui, tandis que sa défense soutenait le contraire au nom de la prescription. Et cet après-midi, la Cour de cassation a estimé que cette prescription était bien acquise. Et la première conséquence, Florence Turm, c'est qu'il n'y aura pas de procès.
Cet arrêt signe effectivement la fin des poursuites à l'encontre du meurtrier présumé. Yves Chatin, 61 ans aujourd'hui, avait livré en 2022 des aveux circonstanciés qui avaient permis de retrouver des fragments du crâne de la victime. Mis en examen pour homicide volontaire, il ne sera pourtant jamais jugé. En rendant cette décision, le premier président de la Cour de cassation a d'ailleurs terminé par un mot à l'adresse de la famille de la victime, Marie-Thérèse Bonfanti. Une décision lourde qui peut être difficile à comprendre, a-t-il indiqué, mais qui prend en compte les règles de droit. Lors de l'audience, le parquet général avait proposé, en cas de dissimulation de corps, de faire débuter la prescription au moment des aveux. Et l'ancien procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, regrette lui aussi la décision de la Cour.
Je pense que la Cour de cassation aurait pu faire preuve plus de modernité, si je puis dire, en intégrant l'évolution scientifique qui fait que des années plus tard, grâce à l'évolution des techniques, on peut identifier des auteurs de crimes, et donc on laissait la porte ouverte à une reprise de l'enquête. Avec cette décision, ça mettra fin à un certain nombre de dossiers, encore une fois, en appliquant strictement la règle de la prescription telle que la considère la Cour de cassation.
La jurisprudence reste donc inchangée, 10 ans de prescription pour un meurtre jusqu'en 2017, 20 ans actuellement. Pour interrompre cette prescription, il aurait fallu constater un obstacle insurmontable et ce n'est pas le cas en l'occurrence, estime la Cour de cassation. En 86, lors de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, il existait déjà une suspicion d'infraction.
Florence Sturm, Thierry Bonfanti, le mari de la victime, a dénoncé une injustice violente. À noter que Culture de l'Info, le podcast de la rédaction de France Culture, mis en ligne à partir de 21h, sera consacré au maintien de la prescription dans cette affaire. Par ailleurs, le pôle Cold Case a ouvert cet après-midi auprès du parquet de Nanterre un parcours criminel sur Dominique Pellicot et sur François Vérove, dit le grêlé. Cette enquête doit permettre à un juge d'instruction spécialisé de retracer la vie de ces deux hommes et d'établir s'ils sont responsables d'autres faits et s'ils ont fait d'autres victimes. En Iran, la vague historique de protestations semble avoir été étouffée par les balles et les arrestations en cascade, une répression ultra-violente qui aurait fait des milliers de morts. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, parle de 20 000 arrestations et au moins 3 428 personnes tuées. Mais ces chiffres pourraient n'être qu'une partie du bilan réel. En tout cas, les forces de sécurité Qadri, la capitale de l'État islamique Téhéran. Celles et ceux qui ont pu fuir le pays ont pu le faire par la Turquie notamment. Marie-Pierre Véraud, notre envoyée spéciale à Vannes, tout près de la frontière, a pu les rencontrer.
Ils n'en peuvent plus des privations, de ces prix complètement fous qui empêchent une part croissante de la population de tout simplement se nourrir, comme ce jeune ouvrier tout juste marié.
Mon salaire mensuel d'ouvrier, c'est le prix d'un kilo de viande. C'est très dur. Avant, la maison, on avait toujours du riz, du poulet, de l'huile. Maintenant, c'est fini.
Sans compter les pénuries organisées par le régime, soutient-il. La jeunesse est à bout, ajoute un homme venu d'une petite ville de province.
Les jeunes, ils ne peuvent pas trouver d'argent pour se nourrir. Et les familles sont dans une situation terrible. C'est pour cela que les jeunes n'ont pas eu peur. Ils ne veulent plus de ce régime, parce que ce sont eux les responsables. L'Iran est un pays riche. Nous avons du gaz, du pétrole, des minerais, mais 50% de la population vit dans l'extrême pauvreté.
Un désarroi économique intimement lié à la colère politique, celle de cet ingénieur parti avec sa famille.
Ils ont bousillé la monnaie de mon pays. Il n'y a pas de travail. L'économie va de mal en pis. Il y a cet énorme fossé entre riches et pauvres. Ma petite amie, par exemple, elle gagne 18 millions de tomans par mois. Son loyer est de 9 millions. On a voulu acheter un yaourt, c'est un demi-million. Ça veut dire qu'avec ce qui lui reste de son revenu, elle peut acheter 18 pots de yaourt. Vous travaillez un mois entier pour 18 pots de yaourt.
La colère, tous l'assurent, est partagée par l'immense majorité du peuple iranien.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale de France Culture en Turquie à la frontière avec l'Iran. Le Canada et la Chine, main dans la main, ou presque, effet collatéral des attaques de Donald Trump, le réchauffement entre les deux pays est amorcé. Les deux puissances en conflit depuis de nombreuses années ont désormais repris le dialogue à l'occasion de la visite aujourd'hui à Pékin de Mark Carney, le premier ministre canadien, s'est entretenu avec le président Xi Jinping. C'est la première fois depuis 2017 qu'un premier ministre canadien venait en Chine et ce rapprochement a abouti à de premières mesures commerciales sur l'importation de véhicules électriques de la Chine vers le Canada notamment. Au chapitre du Groenland, Donald Trump ne lâche pas le morceau. Il a brandi cet après-midi la menace des droits de douane pour les pays qui ne soutiennent pas son projet d'annexion. C'est une icône qui est dans la tourmente en Espagne, Julio Iglesias, superstar mondial de la variété romantique dans les années 70 et 80, est visée par deux plaintes pour harcèlement et agression sexuelle. Elles ont été déposées par deux anciennes employées de maison. Les faits se seraient déroulés en 2021 dans les résidences du chanteur en République dominicaine et aux Bahamas. Aujourd'hui âgé de 82 ans, Julio Iglesias, qui a bâti son succès sur son image de séducteur, n'hésitant jamais à multiplier les allusions à ses conquêtes féminines et à sa vie sexuelle, est sorti du silence aujourd'hui pour dénoncer des accusations absolument fausses. C'est en tout cas une affaire qui fait beaucoup réagir en Espagne et qui divise la classe politique. Correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac.
Les accusations d'agression sexuelle de deux femmes, anciennes employées des villas aux Caraïbes de Julio Iglesias, font beaucoup réagir les Espagnols. Paola travaille dans le secteur culturel.
Julio Iglesias, c'est un genre de monument musical de l'histoire d'Espagne. Et d'un côté, ça m'étonne pas, surtout parce que chez les grands artistes dans l'histoire, parfois on retrouve qu'il y a eu aussi des ombres. Surtout parce que avant, les femmes, ils ne sont pas parlé de tous ces genres de problèmes et de violences qu'ils ont eus.
Le gouvernement de gauche prend position pour les présumées victimes. Ana Redondo, ministre de l'égalité.
Les victimes doivent savoir que la loi est avec elles et que leur parole ne sera pas remise en cause. Le machisme est structurel. On peut être un excellent chanteur, un excellent artiste et avoir un côté très obscur, très machiste.
D'autres politiques se veulent plus prudents. La présidente de la région de Madrid, par exemple, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso.
Nous n'allons pas participer au lynchage d'un artiste, au dénigrement d'une personne qui n'est pas un responsable politique lancé par des responsables politiques. Je considère qu'il y a énormément d'autres sujets sur lesquels nous avons effectivement des responsabilités.
Le gouvernement, entend-on à droite et à l'extrême droite, voudrait parler de Julio Iglesias pour qu'on ne parle pas des affaires à gauche, notamment les dénonciations de harcèlement sexuel au Parti Socialiste, des scandales sortis il y a plus d'un mois et largement traités par les médias.
France Culture, il est 18h16. Le dossier de ce journal, il est consacré au grand chantier de rénovation du centre Pompidou à Paris, après de longues opérations de déménagement de la plus grande collection d'art moderne et contemporain d'Europe, soit quelques 120 000 œuvres. Le bâtiment connu pour sa forte identité visuelle, ses escalators extérieurs et ses énormes tuyaux colorés, est fermé depuis la fin septembre et pendant 5 ans. Benoît Grossin, bonsoir.
Bonsoir Olivier. Bonsoir à toutes et à tous.
5 ans d'un chantier qui vient tout juste d'être lancé.
Cela commence concrètement, effectivement, juste devant le centre Pompidou par l'installation de la base vie, un cantonnement pour les compagnons, pour les entreprises chargées des travaux sur la piazza, le fameux parvis en pente douce fermé depuis le début de la semaine par des barrières et donc désormais inaccessible pour le public avant la mise en place des échafaudages sur la façade au mois d'avril. C'est à partir du troisième trimestre que vont débuter les premières grandes opérations de dépollution, désamiantage et déplombage. La montée du chantier va être progressive, explique Valérie Forêt, directrice générale de l'OPIC, établissement public du ministère de la Culture, maître d'ouvrage délégué du programme de rénovation.
Au démarrage, il y aura 50 compagnons sur le chantier environ et en pointe, on atteindra 300 compagnons aux environs de 2028 pour le changement des façades, pour la rénovation de l'ensemble des réseaux techniques, les centres de production, la restauration des structures de béton et de métal, la mise en sécurité, mise en accessibilité du centre et le réaménagement des différents blocs fonctionnels, le projet culturel du centre qui vont aller du sous-sol jusqu'à la terrasse.
Une terrasse qui sera accessible au public pour la première fois à l'issue de ce chantier et dont l'un des enjeux est aussi, Benoît, d'ordre environnemental.
Sans qu'il ne soit question, souligne Valérie Forêt, de toucher à l'identité visuelle du centre Pompidou.
Ce projet porte des ambitions très fortes en termes de réduction de consommation énergétique, puisqu'on a un objectif de le diminuer d'au moins 40% en utilisant des technologies sur les vitrages, sur le système d'éclairage LED, sur des fluides frigorifiques. Donc c'est remoderniser Pompidou en préservant son image et sa conception initiale qui laisse voir l'ensemble des réseaux techniques, mais en apportant des améliorations significatives sur les technologies utilisées. L'enjeu, c'est que l'intervention ne dénature pas la vue et l'image qu'on a actuellement du bâtiment.
Créé par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, inauguré en 1977, il y a presque 50 ans, un bâtiment qui va surtout à l'intérieur être complètement métamorphosé, c'est ce qu'affirme le président du Centre Pompidou, Laurent Lebon.
Le sous-sol, notre ancien parking pour autocars, va être transformé en immense agora, une plateforme pluridisciplinaire un peu unique en Europe, 10 000 mètres carrés avec cinéma, théâtre, salle d'exposition. Et effectivement, étage après étage, chaque mètre carré des 120 000 mètres carrés sera nouveau. On ne rajoute pas un étage, on ne rajoute pas une nouvelle aile, on ne rajoute pas un nouveau bâtiment. On fait avec ce qu'on a, mais on le magnifie. Le souhait d'inscrire le centre Pompidou au titre des monuments historiques est effectivement va dans le sens de ce respect de l'enveloppe, de ce respect du dessin de Renzo Piano et de Richard Rogers. C'est tout simplement une protection, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas modifier le bâtiment sans avoir l'autorisation du ministère de la Culture.
Il y a aussi une signification au niveau de la rénovation ?
Oui, parce que la loi permet en France, lorsqu'on a une inscription au titre des monuments historiques, d'avoir des ressources, avec notamment par exemple des bâches publicitaires qui financeront la rénovation du monument.
460 millions d'euros de travaux que l'État finance en grande partie à hauteur de 280 millions, Benoît.
Et c'est au Centre Pompidou lui-même de trouver les fonds complémentaires français ou étrangers, dont une forte contribution déjà, 50 millions d'euros de l'Arabie Saoudite. En échange d'accords de coopération culturelle, il reste tout de même encore 80 millions d'euros, soit 15% du budget à collecter dans les 5 prochaines années.
Benoît Grossin, merci. De la grisaille, des pluies éparses et des températures douces. C'est le menu météo pour la journée de demain. Côté température, 5 degrés pour les minimales demain matin jusqu'à 13 degrés du côté de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. Préparé avec Alison Vicrobeck, Marie-Claire Oumabadi était à la technique.